Quand elle retrouva Libby, elle s'empressa de lui rapporter les propos d'Angus. L'infirmière ne parut guère étonnée. « Tu sais, soupira-t-elle, les enfants sauvages, on en trouve même à Londres. La plupart du temps, il s'agit de gosses traumatisés par les bombardements. Ils ont perdu leurs parents, ils se cachent dans les décombres pour fuir le monde extérieur. On en a amené un à Saint-Job's une fois, un garçonnet d'une dizaine d'années. Il ne savait même plus parler. Il se déplaçait à quatre pattes et ne supportait pas la lumière. Il était si sale qu'on le surnommait l'enfant rat. Il a refusé de s'alimenter. 3 semaines après, il était mort. » Amy ne fit aucun commentaire. Elle commençait à penser qu'Angus ne lui serait d'aucune utilité. C'était un doux rêveur, enfermé dans son travail de reconstitution. Son unique but était de retrouver au moins un fragment de chacune des œuvres d'art jadis détenues par le comte. Un éclat de marbre, un débris de toile peinte de la taille d'un timbre-poste. Son ambition s'arrêtait là. La psychologie des protagonistes, les passions qui les avaient agités, le laissaient froid. Seuls les objets éveillaient sa compassion. Ces pauvres objets, si malades, si détériorés. Plus elle y pensait, plus Amy sentait qu'il lui fallait se tourner vers le lutin. La méchante petite fée à la fronde, celle qui cassait la tête des vieillards et pendait les chiens aux basses branches des arbres. Sharon ou Alicia, peu lui importait. Elle n'était pas là pour retrouver l'héritière d'un royaume parti en fumée. Elle avait besoin d'un témoin des événements. Quelqu'un qui pourrait lui dire en quoi elle y avait été mêlée. Elle, la fille aux cheveux rouges. « Je dois me débrouiller pour l'apprivoiser, » décida-t-elle. Établir le contact, la mettre en confiance et l'interroger. Le programme était sans doute optimiste, mais elle devait s'y tenir sous peine de s'enliser dans le mystère des ruines. Libby prenait ses curieuses vacances avec philosophie. Il ne lui déplaisait pas de ne plus être réveillée par les cris des mourants. Elle dormait beaucoup, comme si elle avait des années de sommeil à rattraper. La campagne lui plaisait. S'étant découvert une âme braconnière, elle entreprit de poser des collets afin de corser les maigres ragoûts confectionnés par Angus. Elle coupa du bois, assembla des fagots, ramassa des murs, fit des confitures, du pâté de bécasse, de la terrine de lièvre. Installée sous la tente réfectoire du campement, elle piétinait devant ses fourneaux, la face empourprée, le corsage bâillant sur ses gros seins blancs. « La nourriture, c'est la vie » bougonnait-elle quand Amy lui demandait pourquoi elle s'agitait de la sorte. « Ça me change des pansements et des culs à nettoyer. Tu ne peux pas comprendre. La vie, la vraie vie. » Amy décida de mettre à profit les talents culinaires de sa camarade pour améliorer les offrandes du petit dieu. Elle prit l'habitude d'aller déposer une belle tranche de pâté, une coupelle de confiture, 2 ou 3 muffins, dans l'enceinte de la Gloriette, là où l'enfant sauvage s'approvisionnait. Elle espérait que la petite folle remarquerait l'amélioration survenue dans son ordinaire et chercherait à en comprendre la raison. C'est par la gourmandise qu'on apprivoise les animaux. Tous les dompteurs le savent. Une fois les offrandes déposées, elle s'embusquait derrière un pan de ruine et attendait, en retenant sa respiration. Mais la gosse se méfiait et sa patience semblait infinie. « Elle sait que je suis là, » se disait la jeune femme. « Elle ne viendra pas. Si je m'obstine, je finirai par l'indisposer. » Alors elle sortait de sa cachette, esquissait une révérence et tournait les talons. Une fois, une seule, elle vit une ombre gracile se couler hors des buissons. C'était maigre et nu, pathétique, les côtes saillantes. Hélas, le soleil se couchait et elle ne put distinguer le visage de l'enfant. Elle eut l'illusion de contempler une guenon sans poils, barbouillée de glaise. La jeune femelle d'une peuplade troglodyte que l'évolution aurait oubliée, là, dans le parc du château fantôme. Son cœur se serra. Elle ébaucha un pas en avant, puis se ravisa. Il ne fallait rien brusquer. Le soir même, elle vola une chemise de nuit dans la mâle cabine d'Angus et alla la déposer dans la gloriette. « Il faut que vous visitiez les ruines !» déclara le jeune homme un beau matin. « Ce serait trop bête d'être venu jusqu'ici pour demeurer frileusement dans le parc. Accompagnez-moi, ce sera une promenade exaltante, je vous le promets. » Amy accepta, l'estomac noué par l'appréhension. Mais elle estimait que son interlocuteur avait raison. Si elle voulait pénétrer les secrets du manoir, il lui fallait descendre au centre du bûcher, explorer le territoire des morts. Angus lui donna une combinaison d'égoutiers, des bottes et un casque de mineur, muni d'une petite lampe à réflecteur. « Restez derrière moi, conseilla-t-il. Déplacez-vous dans mon sillage, marchez où je marche, ne vous cognez jamais aux poutres. Il suffit d'un rien pour qu'un passage s'éboule. Nous allons descendre au centre du millefeuille, là où les 5 étages du château se sont emboîtés les uns dans les autres. Vous devrez vous déplacer avec une grande économie de mouvement pour ne pas faire voler la cendre. Dans le cas contraire, nous nous retrouverons submergés par la suie. On peut vite s'étouffer à ce petit jeu. » Lui ayant remis un masque à gaz, il sortit de la tente et s'avança vers les ruines. Amy n'emmenait pas large. Soudain, les décombres lui apparaissaient sous l'aspect d'une carcasse malfaisante. Le squelette d'un animal, pas tout à fait mort, et dont les ultimes soubresauts pouvaient encore tuer. « J'ai exploré différentes voies, » expliqua Angus. « Cela relève de la spéléologie en terrain miné, je ne vous le cache pas. Mais le voyage en vaut la chandelle. Pour un peu que vous sachiez regarder au bon endroit, vous surprendrez des merveilles. » La proximité de l'action le transformait, le dépouillait de son déguisement de fils de bonne famille, jouant de son élocution comme d'un air de flûte. Brusquement, il devenait quelqu'un d'autre. Un être plus solide sur qui on pouvait compter. À pas lents, ils entrèrent dans le champ des décombres dont les scories craquaient sous leurs semelles. Tout semblait fragile. Le moindre effleurement réveillait des tourbillons de cendres. Par bonheur, la pluie avait alourdi le tapis grisâtre, le rendant moins volatile. Angus s'agenouilla pour désigner une carcasse d'acier tordu. Camille prit tout d'abord pour l'épave d'un bombardier quadrimoteur encastré dans la charpente. « Voilà tout ce qui reste du musée, » chuchota le jeune homme. La grande galerie au chef-d'œuvre se trouvait dans ce cylindre. Aujourd'hui, tout est aplati. Mais à l'origine, l'endroit était assez large pour abriter une rame de métro. Le feu la chauffait au rouge, comme une marmite. À l'intérieur, la température a dû atteindre un bon millier de degrés. Lord Ashdown et sa collection ont été carbonisés en moins d'une minute. Amy estima qu'il enjolivait, mais ne put s'empêcher de tendre le cou pour jeter un coup d'œil dans la carcasse éventrée. Encore une fois, elle eut l'impression de contempler un gros avion abattu par la DCA. De la somptueuse galerie d'exposition évoquée par Angus, ne subsistait qu'un enfer de ferraille fondue d'où s'échappait une odeur atroce. « J'y suis entré, » dit Angus. « C'est là que j'ai récupéré les débris qui figurent dans l'album. » C'est une exploration éprouvante, dans l'obscurité totale. On a l'impression de nager dans un océan de cendres. Ce qui est terrible, c'est de penser que cette cendre est composée du corps de Lord Ashdown et d'une 30aine de merveilles picturales détruites à jamais. Sentant peser sur lui le regard de la jeune femme, il s'ébroua et lui ordonna de mettre son masque à gaz. Alors commença un étrange périple dans les entrailles du manoir englouti. Angus avait localisé des tunnels par où il était possible d'accéder aux étages encastrés dans le sol. Amy constata que le château s'était effectivement replié à la façon d'un accordéon pour s'enfoncer dans les profondeurs des caves. Ce brusque effondrement avait en partie protégé le mobilier des ravages de l'incendie. Après avoir rampé le long des trois boyaux, on débouchait dans une salle au mobilier intact, mais dont la hauteur avait été réduite de moitié, voire des trois quarts. Il était désormais impossible de s'y déplacer autrement qu'à quatre pattes. On y côtoyait des fauteuils, des canapés, des lits encore intacts. C'était une impression troublante que de découvrir au milieu de ce saccage des meubles d'une facture exquise, à peine ternis par la claustration et l'humidité. Un roman, une écharpe, traînait sur un sofa, là où on les avait oubliés la veille de l'incendie. Des roses desséchées étaient tombées de leur vase pour rouler à la surface d'une crédence. Partout, de menus objets semblaient attendre que leur propriétaire vienne les récupérer. Là, c'était une paire de lorgnons, là un éventail, là encore une coûteuse broche en forme de cygne. Fascinant, n'est-ce pas ? Souffla Angus à travers la pastille du masque. Je crois que c'est ici que vit l'enfant sauvage. La nuit venue, elle se retire dans les tunnels et regagne son ancienne chambre, quelque part sous nos pieds. Vous avez tout exploré ? S'étonna Amy. Non, à certains endroits, les passages sont trop resserrés pour un adulte. Et il est hors de question de les élargir. Au moindre coup de pioche, tout s'écroulerait. Nous sommes à l'intérieur d'un château de cartes. C'est un miracle que cela tienne encore debout. C'est temporaire, du reste. Un jour ou l'autre, une poutre cédera et l'équilibre sera rompu. Voilà pourquoi je m'obstine à remonter certains objets. Je choisis ceux qui sont cassés et que je peux transporter en pièces détachées. Il me serait impossible d'apporter du mobilier intact. Je ne suis pas assez fort et les boyaux sont trop étroits. Je sais que vous me prenez pour un ahuri, mais de cette façon, tout ne sera pas perdu. Il subsistera quelque chose d'Ashdon. Amy l'écoutait d'une oreille distraite, des considérations plus pragmatiques l'habitaient. Elle se demandait s'il lui serait possible de perquisitionner à l'intérieur de ses commodes, de ses secrétaires et d'y dénicher des indices utilisables. Elle tendit la main vers un tiroir et l'ouvrit. Angus se cabra. « Que faites-vous ? Hoqueta-t-il. « Vous êtes folle ? C'est de la violation de sépulture. Je ne touche pas aux affaires personnelles des défunts. Je n'ai jamais remonté de laide, de lingerie. » Pas même un chapeau ou une écharpe. Arrêtez ça immédiatement. » Amy suspendit son geste, stupéfaite par la soudaine métamorphose de son compagnon. Elle recula, sentant qu'il n'hésiterait pas à la brutaliser. À partir de cet instant, la visite tourna court. D'un ton boudeur, Angus prit prétexte des difficultés d'accès aux étages inférieurs pour rebrousser chemin. « Il ne me juge pas digne de partager ses trésors, » songea Amy. « Je l'ai déçu. Tant pis. » Au vrai, elle n'avait aucune envie de s'attarder dans ses catacombes s'il ne lui était pas permis d'y collecter des informations. Elle aurait donné cher pour compulser les archives du manoir, lettres, photographies, journaux intimes. Là où se trouvait la réponse aux questions qu'elle se posait. Ils remontèrent à l'air libre et se séparèrent froidement. La jeune femme comprit qu'elle avait commis un crime de lèse-majesté. Il n'était pas impossible qu'Angus les priât de quitter les lieux. « Compte là-dessus, mon bonhomme, » se dit-elle. « Tu peux toujours courir. Je ne m'en irai pas avant d'avoir découvert ce que je fichais ici au cours des semaines qui ont précédé la catastrophe. » De mauvaise humeur, elle rejoignit Libby, qui somnolait étendu sur une chaise longue, une couverture écossaise tirée jusqu'au menton. Elle entreprit de lui raconter sa bévue. L'infirmière haussa les épaules. « De quoi t'étonnes-tu » soupira-t-elle. « Ce petit crevé est à moitié ma boule. Il se prend pour un prêtre égyptien. Sa pyramide, c'est ce tas de décombres. Espérons qu'il ne deviendra pas méchant. Je me méfie toujours de ce genre de type. C'est maigre comme un coucou mais ça se transforme en assassin à la première crise de nerfs. Ne l'asticote pas trop. Amy estima que Libby avait raison. Elle devait abandonner Angus à sa folie et se concentrer sur l'enfant sauvage. La clé du mystère résidait là. « Je dois la rencontrer, » se répéta-t-elle, coûte que coûte. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux. Au premier faux pas, la petite fille lui casserait la tête d'un caillou bien ajusté, comme elle l'avait fait pour Muddy Jack. « Elle nous a sauvés du four, » se rappela Amy. « C'est donc que nous lui sommes sympathiques. Si rien n'est encore gagné, tout n'est peut-être pas perdu. » La nuit, Angus allumait de petites lampes à pétrole dans chacune des tentes d'exposition. Au début, Amy s'était demandé pourquoi. Elle comprenait à présent qu'il s'agissait avant tout de séduire l'enfant sauvage que ses lumières nocturnes attiraient comme un papillon. Enveloppée dans son manteau noir, le capuchon rabattu sur la tête, la jeune femme s'embusqua dans un boquetot pour tenter de surprendre la petite fille au cours de ses déambulations. Elle dut patienter jusqu'à minuit. Enfin, alors que les crampes la gagnaient, elle vit sortir de la forêt une mince silhouette vêtue de la chemise de nuit déposée en offrande quelques jours auparavant. Malgré l'excitation qui la gagnait, elle s'obligea à l'immobilité, retenant son souffle. « Espérons que le vent ne lui apportera pas mon odeur », se surprit-elle à penser. La fillette entra dans la tente qui abritait la reconstitution du salon de musique. La lumière de la lampe à pétrole projetait sa silhouette sur la toile tendue, comme pour un spectacle d'ombre chinoise, ce qui permettait à Amy de suivre ce qui se passait à l'intérieur de l'abri. L'enfant s'assit au clavecin et commença à jouer une sonate. L'instrument étant hors d'usage, ses doigts frappaient les touches muettes, produisant un son désagréable de petits maillets heurtant le bois. Elle ne semblait pas s'en rendre compte. De temps à autre, elle s'arrêtait pour tourner une page de la partition calée sur le lutrin. « Si elle sait jouer du clavecin, » songea Amy, « on pourrait en déduire qu'il s'agit de la jeune comtesse. Seulement voilà, en l'absence de toute musique, il est difficile de savoir si elle joue vraiment quelque chose ou si elle se contente d'imiter les mouvements d'une claveciniste. Dans ce cas, nous serions en présence d'Alicia, la fille des domestiques. » Elle serra les dents, agacée. De toute manière, cela ne prouvait rien. Si les deux gamines avaient été élevées ensemble, Alicia avait très bien pu apprendre le piano. « Ça n'a pas d'importance, » répéta-t-elle. « Qu'il s'agisse de Sharon ou d'Alicia, ce n'est pas mon problème. » Il me faut un témoin, c'est tout. Quelqu'un qui se trouvait là au moment de la catastrophe. Elle n'était pas flic. Son enquête n'avait nullement pour but de châtier une éventuelle incendiaire. Qu'Alicia ait mis le feu au château pour se venger de sa petite camarade n'entrait pas en ligne de compte. Elle ne devait pas se focaliser sur cette énigme. Sa sonate achevée, la fillette quitta le salon de musique pour visiter la chambre à coucher. Là, elle s'installa devant le miroir rafistolé de la coiffeuse et entreprit de se peigner au moyen de ses doigts écartés. Elle penchait la tête de côté, comme si elle possédait encore une longue chevelure, mimant les 100 coups de brosse rituels du soir. Considérant le petit crâne rendu chauve par l'incendie, Amy sentit son cœur se serrer. L'enfant joua à se pomponner pendant une bonne demi-heure. Elle mimait à la perfection les gestes d'une coquette, faisant semblant de passer une robe, de tourner devant le miroir pour se contempler. Elle évoluait avec grâce, comme aurait pu le faire une fille de la noblesse, habituée dès son plus jeune âge à contrôler ses gestes pour leur imprimer cette fluidité caractéristique des femmes du monde. Puis tout à coup, elle sortit de sa transe, reprit sa posture d'animal traqué et bondit hors de la tente pour filer vers la forêt. « A-t-elle senti que je l'observais ?» se demanda Amy.